Nous sommes de retour à l'émission Sans détour pour la revue de presse. On commence par parier des Jeux paralympiques 2026, hein, des Jeux d'hiver qui ont lieu en cette année 2026. Je vais vous parier donc de catégories de classes et de handicap. C'est peut-être quelque chose qu'on comprend mal lorsqu'on parle des Jeux paralympiques. Pour garantir l'équité des épreuves, les sportifs sont classés en fonction du degré de leur handicap, étant donné évidemment qu'il y a différents types d'handicap et que les handicaps peuvent oui ou non jouer jusqu'à un certain point sur la performance de l'athlète. Jusqu'en 2002, aux Jeux de Salt Lake City, il existait une épreuve par classe et par discipline. Donc, les classes sont les types d'handicap et leur degré. Donc, il y a plusieurs classes par discipline. Donc, il y avait énormément de classes, énormément de classes différentes à chaque discipline. Donc, ça faisait beaucoup d'épreuves. Et finalement, après 2002, on a décidé donc de regrouper plusieurs classes au sein d'une même épreuve dans le but de dynamiser les compétitions et de les rendre plus attractives et d'avoir plus d'athlètes donc qui compétitionnent les uns contre les autres. Ce que ça fait tout ça, c'est qu'en fait, les athlètes vont être placés, dans différentes catégories en fonction de la gravité de leur handicap et de l'impact que ça a sur leur performance. Par exemple, pour le paraski alpin et le paraski nordique, on a trois grandes catégories, debout, assis et déficient visuel. Et dans chacune des catégories, on a donc différents degrés d'handicap. Par exemple, pour chaque skieur, on se voit attribuer donc un pourcentage défini en amont des Jeux, donc avant les Jeux, en fonction de l'ampleur de son handicap et de sa catégorie. Ces pourcentages qui correspondent aux classes vont voir le temps réel de la personne modifié par rapport à son passage. Par exemple, quelqu'un qui a un handicap assez infime, qui a peu d'impact sur son score, son chrono va être ramené à 97% de son chrono réel. Quelqu'un qui a plus un handicap plus sévère, son chrono va être ramené à 81% de son temps réel. Donc, il va avoir fait moins de temps au final que son temps réel parce qu'on lui enlève du temps étant donné qu'on compense son handicap physique. C'est comme ça que ça fonctionne dans les sports où il y a des catégories. Il y a aussi des sports où il n'y a pas de catégories. Par exemple, lorsqu'on parle de hockey, de para-hockey, donc de hockey sur glace ou de curling, par définition, les gens sont assis dans un fauteuil roulant, donc tous les gens sont assis en fauteuil, et donc il n'y a pas de classe à ce moment-là, il n'y a pas non plus de temps qui va être revu à la baisse pour ces gens-là. Tout le monde est égal à ce moment-là, il va y avoir donc seulement une équipe et tout le monde va être considéré de façon égale dans ces équipes-là, étant donné que tout le monde est assis en fauteuil roulant. Maintenant, on va aller parler d'handicap et de cancer. C'est une étude qui est sortie en France qui nous dit qu'au final, les personnes qui sont en situation de handicap se font moins dépister que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Pourquoi? Entre autres, à cause de l'accessibilité limitée des structures de santé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas adaptés pour les personnes en situation de handicap, mais aussi parce que l'information est inadaptée. Donc, des personnes qui ont des handicaps intellectuels ou des troubles du spectre de l'autisme, par exemple, ou qui auraient besoin d'une information plus courte, est plus précise et mieux expliquée, mais des fois, elles ne se retrouvent pas dans les dépliants conventionnels et elles sont incapables de trouver l'information. Ce qui fait qu'au final, il y a seulement 31% en 2018-2019 en France des femmes en situation de handicap qui ont été dépistées pour les cancers les plus récents, mais les plus courants, contre 52% de la population générale. Ce qui fait qu'en France, on a décidé de mettre de l'avant un plan d'action pour diminuer les obstacles au dépistage des cancers les plus fréquents, parce que c'est évidemment un problème et à long terme, ça coûte des vies, hein? Ça coûte évidemment là financièrement, ça coûte cher à l'État, mais au-delà de ça, bien sûr, ça coûte des vies. Des gens qui auraient dû être dépistés, qui n'ont pas été dépistés parce qu'on n'a pas pu leur rendre l'information ou leur rendre les lieux accessibles. Donc en France, c'est maintenant quelque chose qu'on essaie de faire. C'est dans les plans là pour l'année 2026 de rendre plus accessible. Il y a dépistage pour les personnes en situation de handicap. Évidemment, je parle de la France, mais on en a souvent parlé à cette émission. On a un peu les mêmes problèmes au Québec pour les personnes en situation de handicap. Des cliniques qui sont mal adaptées, du manque d'informations qui répondent aux besoins des personnes en situation de handicap. Des problèmes aussi au niveau du bon dépistage, au niveau du bon service pour les personnes en situation de handicap qui décident finalement de ne plus aller à des consultations médicales parce qu'elles se sentent mal comprises ou mal accueillies par rapport à leur situation de handicap. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir ici aussi au Québec. Et donc, ce sera à suivre. Il faudrait également au Québec qu'on ait des ajustements là pour permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir accès à des soins de santé de qualité. Donc, c'était tout pour la revue de presse de Sans détour. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission. Et d'ici là, bonne semaine tout le monde.